ça y est, tu enregistres là.
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et le moment de rejoindre une terre bruyante, selon Arnaud Contreras, qui affirme « Ici, on ne chuchote pas, on revendique haut et fort, on ne coupe pas les arbres, on les arrache au sol. On écoute seul au matin Georges Friedrich Händel et le soir en famille, Dernière Sommation et autres groupes punk qui sont prêts à faire la route du plateau pour y retrouver leur public. On ne chante pas la Marseillaise le 11 novembre, mais le déserteur de Boris Vian devant un monument aux morts sur lequel on peut lire « Maudite soit la guerre ». Il aurait pu aussi évoquer l'affaire qui, depuis 8 ans, nourrit un feuilleton judiciaire autour de Julien Coupa et 2 autres membres du groupe dit « de Tarnac ». Entre Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, c'est une terre où Georges Guingouin est presque de la famille. Existe Tel les mille vaches et le mot « accueil » se décline volontiers.
Je serais un néo-rural, je me demande bien ce que je pourrais faire ici. Bon, qu'est-ce qu'on a comme atout? Bon, il y aurait le tourisme. On a une chose, c'est l'eau. C'est complètement couillon, la flotte.
C'est pas ouais, faut correspondre à certains critères, je pense, pour être accueilli par la population ici.
C'est vrai que... Oui, il y en a sûrement beaucoup qui ont envie, et je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui arrivent à leur fin.
Bon, le plateau de Mille Vaches, c'est quelque chose d'assez limité, quelque chose qui va de Gensiou jusqu'à Nénac, théoriquement. Mais comme le nom est un nom relativement porteur, on va étendre la notion de Mille Vaches à pratiquement une grande partie de la périphérie.
Mille Vaches, plateau de résistance. Un documentaire d'Arnaud Contreras. Réalisation Clotilde Pivot.
Bonjour. Oh là là, t'arrives en plein boom. Voilà, c'était... Voilà. Un peu de paille pour... nourrir les vaches, mais ça suffira pas, quoi. Mais
bon. Ici, on est sur les contreforts du plateau de Mille Vaches. Bon, la caractéristique climatique, on est un petit peu moins élevé, c'est-à-dire on est à 500-600 mètres, alors que le plateau, c'est 700 à 1000. Et alors, par rapport au plateau, aussi géographiquement, ici, c'est beaucoup plus accidenté, puisque ce sont les contreforts qui sont tailladés par les rivières qui descendent du plateau. Donc là, par exemple, sur la ferme, ben, on a 100 mètres de dénivelé, donc... Effectivement, ça ressemble pas à un plateau. Mais au niveau zone géographique, on fait partie du plateau de Mille Vaches malgré tout. Quoi. Voilà. Alors on est en zone de montagne, hein, mais on peut dire que c'est de la semi-montagne. Quoi. On est sur le massif granitique, avec des sols très peu profonds, qui ont été bien bien érodés, et le substrat, la terre arable, quoi, la terre cultivable, est en fine couche, est présente en fine couche. Donc ça fait beaucoup de handicap pour la culture.
Je m'appelle Mazo, en patois Majao, c'est la maison.
Ici on est dans un milieu rural, paysan, les gens ne faisaient pas beaucoup d'études encore jusque dans les années 50, j'imagine.
C'est pas si sûr, ça dépend du niveau de vie que vous pouviez avoir. Dans les familles bourgeoises, traditionnellement, on faisait des études, mais dans les familles paysannes, ce qui manquait essentiellement, c'était l'argent, parce que c'était bien joli, mais jusqu'à l'arrivée des hussards de la République. Même dans une période récente, j'ai une amie de ma grand-mère qui habitait un village qui est à 6 km de là, et les enfants n'allaient à l'école que, pour reprendre son expression, lorsque les vaches crêchaient. C'est-à-dire lorsque les vaches étaient à l'étable, les mômes allaient à l'école.
Ça, c'est jusque dans les années 30
Jusque dans les années 30. Mais il y a eu quand même, dans la mesure où on a pu donner à sa progéniture une éducation... on a toujours fait en sorte de se saigner un petit peu pour qu'il puisse faire autre chose.
Bonjour, enchanté. Donc vous êtes
De France Culture.
Oui. La personne est parfaite.
Si vous voulez, en gros, le plateau, c'est deux choses. C'est une terre d'émigration. Hein. La partie creusoise, les gens partaient à Lyon, à Paris, dès le 18e ou le 17e, voire même à Barcelone, comme maçons. Hein, tout ce qui est la fameuse histoire des maçons de la Creuse et de Martin Nadeau. Et ils ont construit les villes. C'était les Portugais et les Arabes du 19e. De l'autre côté, le plateau, ça a été aussi une terre d'accueil. Et dès les années 60, ou dès l'après-guerre, on a vu arriver les Belges et les Hollandais qui sont venus reprendre des exploitations parce que le terrain était disponible. Moi, je suis François Chatou, agriculteur sur le plateau depuis 1978. Mais le plateau, c'est une terre très ouverte, parce que je disais que les Creusois étaient maçons, mais les Corréziens n'étaient pas non plus absents des circuits d'émigration. Les Corréziens, ils étaient chauffeurs de fiacre, et après, ils ont été chauffeurs de taxi. Mais ce qui traduisait une autre occupation spatio-temporelle, puisque les maçons creusois rentraient l'hiver, pendant 3 mois d'hiver, parce que la maçonnerie s'arrêtait pendant les 3 mois, ils revenaient, ils faisaient un enfant, ils repartaient. Les Corréziens, c'était l'inverse. Eux, ils revenaient faire les foins, parce que, je sais pas, en juillet-août, il y avait moins besoin de taxi à Paris. Donc, vous voyez, c'est le côté des gens qui partaient, donc qui étaient très ouverts, puisqu'ils avaient appris à lire très tôt. Il y avait en même temps des femmes qui avaient une place de direction dans la cellule familiale. Et ces gens, ils ont très tôt été sensibilisés aux idées de gauche. Il faut savoir que les morts à la Commune de Paris, hormis Paris, ceux qui sont le plus morts dans les champs fusillés, c'est les Limousins. Hein, c'est parce que c'est par hasard, c'est qu'ils étaient en tête, c'était le prolétariat urbain de l'époque. Donc ils revenaient tous les ans, donc ils arrivaient avec des idées novatrices, ils savaient lire souvent et écrire, ce qui était à l'époque peu fréquent. Et ces gens, ils arrivaient avec une vision politique forte. Donc c'est complètement une terre de gauche, de sensibilité de gauche. Alors après, ça a évolué en fonction des départements, en fonction de l'histoire. Bon, la Creuse est restée très socialo sur la partie plateau. La Corrèze était très communiste, et sauf l'épisode Chirac, où on a vu des mecs passer avec armes et bagages du communisme au RPR. Mais parce qu'il y avait le côté grande gueule, séducteur que pouvait avoir Chirac, efficace. Et la Haute-Vienne, pareil, était très communisme. Bon, donc ça s'est traduit par des épisodes récents qui ont marqué, bon, la résistance, avec les maquis AS sur la Haute-Corrèze et les maquis FTP sur la Creuse et la Haute-Vienne, surtout la Haute-Vienne avec Guingouin, dont vous avez entendu parler, qui était le lieutenant-colonel Guingouin, qui était d'ailleurs exclu du Parti communiste juste après la guerre.
Le 18 juin 1840, je suis dans un hôpital de Moulins sur Allier, blessé, quand les unités allemandes arrivent dans la matinée. Et naturellement, pour moi, le problème se pose, être prisonnier. Alors, je n'accepte pas, et sous une pluie de balles, je rejoins le poste de secours du régiment qui défendait la ville, et avec ce régiment-là, je suis évacué. Et c'est le même jour que, mais à la BBC, qu'au soir, le général de Gaulle lance son célèbre appel, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. » Parce qu'il faut bien comprendre qu'ici, dès que Pétain s'est installé, il y a un climat de peur vraiment qui a été créé dans les campagnes. Pendant la campagne, les nouveaux maires désignés par Vichy, on les appelait Pétain. Il y avait par contre des maires et des conseillers municipaux, anciens membres du parti, même n'exerçant aucune activité, qui avaient été arrêtés à Émoutiers, comme l'ancien maire d'Émoutiers, Dr Fressex, de ces membres du conseil municipal, c'est-à-dire on essayait de faire régner la peur dans les campagnes. Mais moi, en août 41, j'ai pensé de l'action civile à passer à l'action militaire. Mais penser à l'action militaire, il ne faut pas que ce soit du blabla. Parce que pour faire de la guerre, il faut avoir un fusil, il faut avoir du matériel de guerre, et nous, on n'avait rien. Bon. Alors, en août 41, j'ai donné comme mission aux hommes qui travaillaient avec moi de rechercher des armes de guerre, c'est-à-dire on devenait des soldats. Et à ce moment-là aussi, j'ai créé ma première planque dans les forêts en avril 1941.
Vous connaissiez Guingouin ?
Qui ?
Guingouin.
Ah, je ne l'ai pas connu, mais j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas jamais connu. Il n'était pas bien loin d'ici.
Léon, ça va ?
Assoyez-vous, hein ? Attends, je vais te donner un sanglier. Bien. Tu vas voir. Il y a tout ce qu'il faut ici.
Il était là-bas.
Et vous étiez où pendant la guerre ?
Ben, j'étais là. J'étais au chantier de jeunesse, moi. Et j'ai resté 6 mois, et puis après, comme on devait partir en Allemagne, ben on a ripé nos galoches, et puis on est venu ici. On a mis 4 jours pour venir. On est parti à 12 des chantiers de jeunesse. Comme on avait nos habits civils là-bas, on s'est habillé le soir, et puis on est parti dans la nuit. C'était en 43, au mois de mai. Fin mai, début juin. On est arrivé début juin ici. Parce qu'on avait quand même mis 4 ou 5 jours pour venir. On n'a pas eu de merde. Au contraire, on était bien. Dans les villages où on passait, on était bien vus. Les gens nous tapaient par la fenêtre et nous donnaient du ravitaillement. Mais moi, je suis venu là. Mais je ne suis pas resté là, chez nous. J'étais chez le voisin là-bas, couché. Je ne pouvais plus marcher alors. J'ai resté au moins plus de 8 jours. Que je ne pouvais pas marcher. Et puis après, on est parti. Je suis parti, on m'a emmené avec l'âne, à Sedera, sur l'âne. Et puis après, ils nous ont fait une cagna là-bas, sur Sedera, dans un ravin. C'est un trou, sous terre, qu'on est resté quelques temps. Et ça a servi pour d'autres après. Ici, tous les gars étaient bien dans le maquis, à peu près, à part quelques exceptions. Parce qu'on ne se figure pas ce que c'est d'avoir pendant 3 ans être les flics sur le cul, quoi. Hein?
Et les GMR aussi.
Et les GMR. Hein? Quand tu les vois passer là, et que tu as les outils, quoi faire? Tu tires dessus? Si tu tires dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu fais brûler le village.
C'est quoi les GMR?
C'était des gardes mobiles qu'ils appelaient, je sais pas comment c'était, des flics, quoi. C'est tout.
C'était pas la milice, c'était autre
chose. Des flics qui étaient...
Si, c'était la milice.
Ils te dénonçaient, puis ils te faisaient juger, et puis c'est tout. On risquait pas beaucoup, on risquait ça.
Il y a pas mal, déjà.
Alors la guerre de 14, ben, elle est faite, vous allez trouver ça sur le monument aux morts, vous devez avoir, j'ai dû compter, 117 ou 112 noms qui sont inscrits, et ça représente, en gros, les noms qui sont inscrits représentent 5% de la population enregistrée en 1913 lors du, comment appelle-t-on ça, de ces recensements de population, mais 5% de la totalité de la population. Ça fait quand même un gros trou.
Et tout au long de l'histoire, on retrouve des trucs qui, si on ignore ce côté immigration, on a du mal, je pense, à se faire une bonne idée. L'exemple type, c'est le monument aux morts de Jansiou, où un écolier, le point levé, montre une inscription maudite sur la guerre, et qui a été, depuis son érection en 1923, n'a jamais été inauguré. Puisque c'est quand même le top du désordre pour l'État, et quel qu'il soit. C'est aussi l'histoire des rappelés de la Ville-Dieu, où dans les années 58, des rappelés pour la guerre d'Algérie s'arrêtent à la Ville-Dieu et manifestent, et la population les a soutenus, et les mecs ont été bloqués pendant quelques temps. Et donc ça s'est terminé avec exclusion de l'instituteur de Follemontagne de l'éducation nationale, le maire viré, procès, etc. Donc ça, c'est parce qu'il y a ce fond de gauche rurale bien particulier.
Alors les hommes revenant de la guerre, revenant à Mille Vaches,
oui.
Est-ce qu'ils ont politisé un petit peu plus Mille Vaches? Est-ce qu'ils ont été...
Non, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont foutu le camp. Qui ont foutu le camp, mais qui ont foutu le camp en ville. Et je pense que la préoccupation politique était passée au second plan par rapport à la nécessité de devoir casser la croûte et de faire vivre sa famille. Donc le retour à la ferme, je pense qu'ils en avaient bavé pendant 4 ans, qu'ils avaient une certaine idée, et qu'ils avaient qu'une envie, c'est tout le camp, je crois. Je pense, c'est une opinion toute personnelle.
Quelle était l'économie ici entre les deux guerres? Enfin, les gens vivaient de quoi ici?
Les gens vivaient de... Bon, il y avait quoi? Il y avait du commerce quand même. Il y avait une partie de commerce, une partie d'artisanat. Donc on vivait un petit peu en autosuffisant. Vous voyez, en ce qui me concerne, le grand-père et la grand-mère avaient un commerce. Dans ce commerce, on était quincaillés, mais on y vendait des clous, on y vendait des haches. Et tout ça, ça se vendait au poids. On y vendait des coins pour fendre le bois, on y vendait des tuyaux de poêle, on y vendait de la peinture, du carbure de calcium pour s'éclairer. De l'autre côté, il y avait les couronnes mortuaires. Et de l'autre côté, bon, on avait la fabrication, le grand-père étant charron, fabriquait des charrettes. Et évidemment, quand le bois a un petit peu périclité, bon, est arrivé les premières formes de machinisme, c'est-à-dire des faucheuses, mais des faucheuses qu'on accrochait derrière les bêtes. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des couturières, des chapeliers, on fabriquait des sabots, des choses qui ont complètement disparu, on avait des cordonniers.
Il y avait une grosse confrontation avant entre l'agriculture et la forêt. Maintenant, je pense qu'il y a un point d'équilibre qui est arrivé parce que on est en gros 50-50%, enfin 50% forêt, 50% agriculture sur la zone cœur-plateau.
Voilà, et après, il y a la dernière vignée, là, qui est attachée sur le côté. Pareil, je lui attache
la tête. Le plateau des Mille Vaches. En un siècle, les arbres ont pris le dessus sur les hommes. Plus de la moitié de la population est partie vers la ville. Dans ce village, en 1987, une naissance, 20 décès. Isolement, ennui, solitude. Pour réagir contre cela, Télé Mille Vaches est né en avril 1986.
On n'invente rien, c'est-à-dire que si on est ici, ça veut dire qu'il y a eu des gens avant nous et qu'il y en aura après. Et les gens avant, c'est par exemple Georges Guingouin, mais c'est aussi un territoire où il y a eu des enterrements civils, par exemple. C'est un territoire où il y a eu des avortements organisés. Et on est héritier de ça parce que Aujourd'hui, quand on arrive sur ce territoire, quand je dis « on », par exemple en Mianse-Bois, quand l'entreprise s'est installée il y a bientôt 25 ans à Faux-la-Montagne, il fallait être un territoire particulier, donc des hommes particuliers pour accueillir une bande de jeunes qui ne connaissaient pas grand-chose au métier et de dire « ok, on vous accueille et banco, installez-vous ici, on marche avec vous ». Et aujourd'hui, Ambiance Bois et d'autres structures qui existent ici, à leur tour, accueillent des nouveaux projets. Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on prend la suite d'une histoire et elle se poursuit. On se situe, Ambiance Bois, dans notre travail, dans le monde économique, et là, on intègre du politique, c'est-à-dire de la réflexion, c'est-à-dire des choix. C'est intégrer le fait que le mercredi, il va y avoir moins de monde, Ambiance Bois, parce que une partie des gens vont s'occuper de leurs enfants.
Ici, tout le monde a le même salaire.
Oui,
tout le monde a...
Voilà, donc ça, par exemple, ça fait partie de nos choix fondamentaux et délibérés. Et depuis le début, donc on est tous à salaire égal, quelle que soit notre formation et puis le poste qu'on occupe au sein de l'entreprise.
Tu peux aller sur le côté bleu du plateau, quoi, le côté chiratien, Némac, Duja, droite quoi.
T'as en position à
par
rouge.
Rapport au rouge communiste,
communiste socialiste. Rural.
Voilà. En fait, peut-être Perlevat qui est toujours resté à gauche quand Chirac est arrivé. Sur l'autre Corrèze, il y avait Tarnac-Perlevat. Juste quelques petites communes très communistes sur Duja, là, qui étaient. Qu'il y avait des maires qui avaient été faire l'école du parti en Russie.
Les écoles de. Ou en Russie ou en France, c'est les mecs qui faisaient les écoles de cadre du parti. L'archétype que vous devriez rencontrer, c'est l'ancien maire de Tarnac, ouais. Qui s'appelle Jean Plazadet. Tarnac, c'est vraiment le fief communiste rural qui a changé juste de maire la dernière fois, alors que ça a toujours été Tarnac. C'est aussi là où il y a les Coupa et ces gens-là. Et c'est pas non plus un hasard s'ils sont là.
Je m'appelle Pierre Couteau et je suis maire de Perleval depuis 2004. Donc mon père avait été maire de la commune et mon arrière-grand-père également. Donc ça fait partie des contradictions personnelles par rapport à l'organisation de la nuit d'abolition des privilèges. Parce que, voilà. Faut assumer ces trucs. Donc moi, je suis bien là et j'ai envie de rester là. Ouais. Du coup, je partage un peu ma vie professionnelle entre Tulle et ici, parce qu'au niveau du boulot, pas forcément évident quand on n'est pas manuel. Mais...
Qu'est-ce que vous faites comme métier à Tulle?
Alors, je suis assistant parlementaire d'une sénatrice de la Corrèze.
Qui est de quel bord?
Qui est au Parti Socialiste. Il y a une tradition de résistance, entre guillemets. Voilà, donc il y a un terreau, effectivement. On a... il est rangé, là, mais... la commune dispose d'un drap, un beau drap noir et rouge, avec inscrit dessus la libre pensée de Perlevad. Donc, je ne sais pas exactement quelle est son origine à ce drap, mais qui doit avoir plus d'un siècle maintenant, je pense, qu'on
le
utilise
drap,
maintenant
là-haut, là.
Au moment des enterrements. C'est dans l'autre sens. La libre pensée de Perlevan.
Donc drap rouge,
bordé de noir, étoile brillante et étoile rouge sur les côtés.
Mais il sentait quand il y en avait un enterrement civil, l'antiquérico, il mettait ça. Je l'ai toujours vu.
Et cette population, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, comment est-ce qu'elle réagit ici sur cette image?
Surtout, elle va réagir. En général, elle est plutôt d'accord, si j'ose dire, à ce qu'on en... Elle... Oui, Oui, en gros, oui. Disons qu'elle est plutôt... Mais ça fait partie d'une espèce de continuité. C'est-à-dire que c'est déjà installé dans les esprits, mais ça n'est qu'une conclusion, c'est pas une nouveauté. Enfin, je pense pas que les gens aient pris ça comme quelque chose de... À moins d'avoir des politiques très engagées. J'avais un grand-père qui était anti... rouge juif et complètement, totalement, le grand-père qui habitait là, qui avait des idées tout à fait anticléricales, mais alors c'était poussé à son paroxysme.
D'emblée, si on s'est appelé Télémuvage, c'est pas pour rien. C'est pas une télévision de village ce qu'on faisait. C'était pas, il s'agissait pas de parler des 4-5 communes où on était, Faux-la-Montagne, Perlevade, Gensoux, et deux ou trois autres autour. Il s'agissait vraiment de faire une télévision qui soit celle d'un espace qui nous semblait, qui était notre espace de vie, qui était notre espace d'appartenance, le plateau de Millevaches.
Ah, monsieur Couteau, on est devant votre mairie, à Perlevade. On voit des affiches sur la façade, en fait, ça correspond à quoi ?
Alors, ben, ça correspond à une fête qui a eu lieu le 4, 5 et 6 août, qui avait pour but de fêter l'anniversaire de la nuit de l'abolition des privilèges. Il a eu lieu le 4 août 1789, qui ne devait pas se dérouler à Perlevade, initialement, qui devait se dérouler sur la commune des Moutiers, à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc au cours de cette fête, en fait, qui était constituée de débats, de conférences, de projections de films, de spectacles, de rues et de concerts, de musique, il y a un groupe, une commission qui s'était constituée, qui s'appelait la commission Parole en Liberté, et qui avait pour objet de décorer un peu le village avec des phrases comme ça qui ont été accrochées au mur ou dans les arbres ou peintes sur le sol. Donc on retrouve tout un tas de citations qu'on a gardé dans le village, qu'on va garder jusqu'à ce qu'elles tiennent, qui ont pour but d'essayer de faire réfléchir un petit peu.
Donc c'est pas habituel de voir sur le fronton d'une mairie les hommes naissent libres et égaux en droit, après ils se démerdent. C'est assez rare.
C'est assez rare, ouais, mais c'est plutôt sympathique, je trouve. Donc on va le garder un peu.
Après, c'est quand il y a eu les nuits des 4 août, c'était quand même un événement politisé ici. Vous y avez participé ou pas ?
Oui. Ouais, on y était.
Ouais. Enfin,
pourquoi tu rigoles ?
Ben beaucoup, quoi. Tu as été 4 fois, je crois.
Ouais. Si, parce que c'est super, ça. Mais c'est politisé, mais c'était annoncé aussi comme citoyens qui se posent des questions sur l'avenir, qui sont pas... Nous, il y a plein de choses dans la société qui nous dérangent et on rumine un peu dans notre coin. Donc là, c'est l'occasion aussi de... Ouais, un peu... C'est l'occasion de bouger un peu, de se dire, de rester... Enfin, voilà, moi j'espérais peut-être trouver des idées, ouais, enfin échanger aussi avec d'autres. Après, moi je trouve que ce qui a manqué, c'est qu'on a été assez consommateurs de cette manifestation, on a participé aux conférences, on a vu des super intervenants, il y a eu un bal populaire sympa. Mais après, ça s'est pas concrétisé sur des idées, des actions, donc voilà, faut voir la suite de cet événement.
Et au fil du temps, vous, quand vous êtes revenu donc dans les années 70 ici, il y avait toujours cet esprit de résistance.
Ouais, je pense qu'il y avait, toujours. Bon, il y avait. Et si vous voulez, ça a été renforcé. Il y avait, mais moins puissant, puisque les gens après la guerre sont partis, emmenés par les barrages. Hein, les grands travaux, la construction des barrages à Faux-la-Montagne, à Vassivière et partout, a été une pompe aspirante pour retirer les gens, et donc les gens, ils ont été faire fortune ailleurs. Quoi. Hein. Et par contre, ça a été renouvelé, ce côté atypique a été un peu renouvelé après 68, où on a eu beaucoup d'installations de néo-ruraux. Donc, dans un premier temps, le style babacool, qui sont venus, comme il y avait dans les Cévennes, parce qu'il y avait du foncier disponible et que les gens étaient accueillis, parce que les terres d'émigration sont des terres accueillantes, et c'est pour ça qu'on est capable d'intégrer des immigrants. Donc, si vous prenez, par exemple, ici, là, le maire de Gensoux, ses parents sont hollandais. Ils sont arrivés après la guerre, en 45. Vous avez le maire de la Ville-Dieu, c'est un migrant des années 80 qui est lui agriculteur On retrouve le maire de Follamontagne et quelqu'un qui est arrivé il y a une vingtaine d'années en créant une entreprise qui s'appelle Ambiance Bois, qui est une société anonyme à participation ouvrière et qui a été très intéressé dans ce développement en réseau. Voilà. Donc ce développement en réseau fait que ça continue et que si on n'accueille plus des babacools, de moins en moins parce qu'il n'y en a plus, et qu'on continue à les appeler comme ça les babos du plateau, mais c'est une autre vision, c'est des gens qui viennent parce que il y a un développement durable, il y a un développement citoyen, éco, tout ce qu'on veut. Et qu'ils seraient sûrement pas venus si on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de leur venue si on n'intègre pas ce phénomène historique.
Mais les communautés sont moins restées que dans d'autres endroits comme le Larzac ou d'autres choses. On a l'impression qu'ici, pour s'intégrer, il faut bosser, quoi. C'est ici, il faut venir avec un projet.
Ça, ça c'est clair, c'est que s'ils veulent s'intégrer, ils vont s'intégrer par le travail, quoi. Là, ça marche.
Nous, c'est plutôt être autonome. Voilà. Ouais. Vivre en achetant le moins, en consommant le moins possible, en consommant. Voilà, on est autonome en viande, en légumes, en produits laitiers, essayer d'arriver à ça.
Vous le considérez comme décroissant, par exemple ?
Ben ouais, on emploie un peu ce mot.
On aimerait bien, on essaye de tendre, mais on n'est pas.
Non, c'est très. Enfin, bref, c'est. La décroissance, on essaye de moins consommer, le moins consommer possible, mais là, voilà.
Moi, c'est pas facile, quoi, parce que je monte une structure. Donc je suis pas du tout décroissant, quoi, parce que je crée quelque chose, j'investis, je construis. J'emprunte, je suis pas décroissant, quoi. Même si je monte une toute petite structure, je suis pas dans la décroissance. Je continue de.
Ouais. Comment est-ce que vous appelez ?
Jean-François.
Oui.
Et moi, Camille.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce hameau de Fessac ?
6 ans. 6 ans, ouais, je pense.
Ça,
ouais,
c'est vite, ça. Mais ouais. Ça va faire 6 ans. Ouais.
6 ans.
Et avant, qu'est-ce que vous faisiez chacun ?
Moi, j'étais ouvrier agricole, viticole.
Dans quel coin ?
Gevrey-Chambertin. Un beau coin. Et vous ?
Et moi, j'étais documentaliste dans le secteur, privé, quoi, documentaliste d'entreprise. Et puis, après, on vivait dans une ferme qui nous hébergeait. Et puis, petit à petit, on a mis des animaux. Et puis, ça nous a donné envie de continuer. Donc, on a décidé que moi, enfin, j'ai décidé d'être passer le concours pour être prof. Et toi, ben.
Et moi, j'ai décidé d'être agriculteur. Donc, j'ai passé une formation pour ceux qui sont pas issus du, enfin, qui n'ont pas fait le cursus normal pour avoir le diplôme, parce que pour être paysan, maintenant, il faut avoir un diplôme. Donc, j'ai passé le diplôme basique, quoi, pour être agriculteur.
T'as réussi à t'installer, quoi, c'était ça aussi. Quand on est arrivé, on a acheté la maison ici, mais on n'était pas sûr que l'installation agricole puisse se faire parce qu'on n'avait pas beaucoup de terrain. T'as eu pas mal de chance.
Et vous, l'accueil par les agriculteurs du coin, comment s'est passé ?
Moi, ça s'est très bien passé. Ouais.
Ouais, si. Ici, ça, je trouve ce lieu, on arrive vite à être bien chez soi. Après, nous, on avait peur qu'il nous manque un peu tout l'aspect culturel parce qu'on a vécu sur Lyon pendant qu'on était étudiant. À se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Il suffisait de sortir dans la rue, trouver soit un cinéma, des bars avec des concerts sympas. Et en fait, ici, finalement, il y avait pas mal de choses qui se font au niveau de la culture. Donc, surtout l'été, là, on a. Puis même l'hiver, il y a une association là, qui font des bistrots d'hiver. Donc, sur une période, c'est chaque dimanche, on peut aller voir des choses intéressantes. Et puis, il y a plein d'initiatives. Du coup, comme il y avait ce risque qu'il y ait ce manque, il y a plein de gens qui créent des choses. Et c'est.
Et quand vous parlez. C'est riche quand même. Quand vous parlez de réseau, c'est quel type de réseau, en fait, qui existe ici ? C'est quoi ? C'est des associations, des.
Il y a un peu des assos, mais le réseau, il se fait sans.
Ouais, c'est des amitiés aussi.
Ouais,
des...
surtout.
Ouais. Ben, si, nous, il y a l'association de parents donc, qui avait été montée avant qu'on arrive ici. Mais on a pris le relais, on a créé une crèche, par exemple, à Sornac. Quand on se voit, il y a de l'entraide aussi entre vous. Il y a des chantiers, par exemple, quand il y en a qui a besoin d'un coup de main, toi, pour faire ta clôture, les copains viennent. Enfin, c'est à la fois dans le concret et dans les idées. Mais,
Vous avez conscience que Mille Vaches est en train de devenir à l'extérieur une sorte d'icône ?
Ouais,
conscience, j'en sais rien, mais en tout cas dans nos relations avec la presse locale, on va dire, ou régionale, il y a un peu ce truc qui est en train de, d'émerger. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose non plus. Je crois pas qu'il y ait la volonté de qui que ce soit de... Enfin, alors on en joue de temps en temps, bien sûr, mais de... L'idée, c'est pas de créer un ghetto de la résistance ou de sur le plateau de Mille Vaches.
Et ça, vous avez pas peur que des marginaux viennent plus ? Enfin, quand je parle de marginal, je parle pas forcément des gens engagés, quoi, mais ouais. Des gens un peu qui étaient avant dans la sphère techno, dans la sphère, les différentes sphères alternatives mais marginales, viennent vers Mille Vaches ?
Peur, non, on verra bien, mais. Mais comment dire, tous les territoires sont entre guillemets aussi en concurrence. C'est le fonctionnement des collectivités et tout qui fonctionne comme ça, avec des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence, des machins, des trucs. Donc chacun essaye de spécialiser dans son domaine. Il y en a, c'est la porcelaine, c'est l'aéronautique. Justement, il ne faut pas, du coup, que Mille Vaches, ça soit la résistance. Je pense que ça n'a pas de sens.
Et puisque nous parlons télévision, eh bien, Canal+, vous le savez, est venu filmer Télé Mille Vaches. Aussi, Télé Mille Vaches, aujourd'hui, vous présente un reportage que Canal+, a réalisé sur Télé Mille Vaches et qu'il a diffusé. Canal+, présentant Télé Mille Vaches. Si aujourd'hui, Télé Mille Vaches vous parle de Canal+, c'est uniquement parce que Canal+, a parlé de Télé Mille Vaches, car sinon, Télé Mille Vaches ne parlerait pas de Canal+, parlant de Télé Mille Vaches. Je vous propose donc de regarder maintenant ce reportage que Canal+, a diffusé le samedi 13 février dans son émission Samedi 13h, avec un invité, un journaliste du Nouvel Observateur, qui a même fait quelques commentaires.
Et d'où vient ce nom de Mille Vaches ?
Ah, c'est vaste histoire. En patois, ici, d'après les souvenirs que j'ai, on ne disait pas Mille Vassa, mais Miaou Vassa. Et Miaou, je n'ai jamais retrouvé. J'ai trouvé Miaou en grec, le Mio grec, mais qui est donc le muscle ou le rongeur. Mais Miaou, Miaou, je n'ai pas trouvé de Miaou. J'ai trouvé Meite, qui est une moitié. Un demi, si vous voulez, mais qui est un féminin, qui n'est pas un masculin. Par contre, en italien, Vasque se disait Vasca. Alors, y a-t-il... Et un autre, alors d'autres théoriciens, qui sont beaucoup moins nombreux, prennent la terminaison de vache et l'associent avec huum, vide. Milieu vide, ça a été le cas, parce que toute la zone du plateau était une zone de lande jusqu'à des périodes assez récentes. Vax, fontaine, source.
Donc mille sources, mille, ouais, fontaines.
Voilà,
et vous diriez plus milieu vide.
J'en sais rien. Non, je suis. Miaou, je vous dis miaou, je ne l'ai pas trouvé. Meite, je l'ai trouvé. Alors certains même avaient dit moitié de vache, en quelque sorte. Moitié de vache, c'est un veau. Mais vache, dans la tradition, non, ici, il y avait très peu de vaches. C'était surtout des moutons.
Les Français ont parfois du mal à se reconnaître, en effet, dans leur télévision. Ils lui reprochent, entre autres, de ne pas assez parler de leurs préoccupations quotidiennes. Un reproche qu'on entend d'ailleurs, surtout à la campagne, où plus qu'ailleurs, on a l'impression parfois d'être carrément oublié.
T'as enlevé ton tracteur du milieu ?
Oui, mais Isabelle a pris la place. Je suis baisé, maintenant, il y a toujours la boîte devant la voiture.
Mais elle n'a pas vu qu'il y avait la paille.
Et vous voyez un petit peu des jeunes s'installer sur le plateau, vouloir faire votre métier
Oui, il y en a qui veulent, hein, mais alors faire le problème de l'élevage de bovins, c'est que c'est quand même une production qui, même si on fait attention aux investissements, est quand même gourmande en capital, parce que un troupeau de vaches, ça représente une somme d'argent conséquente, ne serait-ce que ça. Même si on trouve le terrain à louer, il faut quand même un minimum de matériel, en tout cas au moins du matériel de fenaison. Voilà, donc c'est vrai que oui, il y en a sûrement beaucoup qui ont envie, et je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui arrivent à leur fin.
Je sais pas, s'il va y en venir d'autres après. Mais nous, quand on est arrivé, ils avaient un peu peur. Parce qu'ils ont vu les hippies, apparemment ils sont venus 2-3 ans, puis ils sont repartis parce que c'était trop dur, parce que le bouc, ils n'arrivaient pas à faire de lait avec le bouc, ou je sais pas, des trucs comme ça.
Ouais, on
du coup, on a été accepté un peu parce que nous, on est resté plus de 3 ans, puis qu'on est là pour toujours, quoi.
Ouais, puis ici, il dit passe un hiver, si vous résistez un hiver, vous resterez, quoi. C'est un peu le truc. Donc, bah ouais, il y a eu. Avec le PNR, là, ils ont fait une résidence d'artistes. Les artistes sont venus et on est allé à une réunion avec. Ils avaient essayé d'interroger pas mal de populations variées sur le plateau. Et on entend toujours ce discours-là, quoi. Les gens ici, ils viennent, ils restent pas. Les jeunes, ils sont. Ah voilà, ici, il faut être d'ici pour y rester. Et on essaye de leur dire et montrer que non, quoi, qu'on est plusieurs à croire qu'il y a une vie sur ce plateau, que c'est pas désertique, qu'il y a plein de choses à faire. Mais il y a un peu. Oui, il y en a certains qui ont un discours un peu défaitiste.
Et l'affaire de Tarnac, ça n'a pas eu le même effet que les hippies, c'est-à-dire ça n'a pas un peu dégoûté les gens ici.
Du coup, on n'en a pas trop parlé. Ouais, j'ai pas l'impression que ça se.
Non, ils avaient l'air d'être bien acceptés. Hein. On n'a pas eu, enfin, j'ai jamais entendu qu'ils se fassent, enfin,
ah non, critiquer ouais, là-bas, du côté de Tarnac, non, non, ils étaient soutenus par les gens du pays.
Ouais.
Mais la génération des gens comme vous avez rencontré à Folamontagne, Crise, bon, ils sont en plein dedans là. C'est, est-ce que ces gens vont rester quoi? Ça veut dire ils vont rester, mais souvent ils vont pas rester sur les mêmes idées que les parents. Bon, il y a aussi un truc qu'il faut aller voir, c'est à Royère. Un bar qui s'appelle l'Atelier. Ça, c'est l'archétype type, c'est des néos, c'est des issus de néos, les mecs. Hein. Mais les parents, ils étaient éleveurs de chèvres, etc. Et eux, les mecs, ils ont fait des solides études économiques et ils ont ce bar qui est très convivial, très ouvert, très branché, internet, tout ce qu'on veut, très culture et tout. Mais toujours, ça se pose en termes économiques. Quoi. Et c'est là le changement par rapport à la génération de. Il y a 30 ans, des babas.
Vous appelez comment ?
Florent Biro.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici à l'atelier ?
Moi, 3 ans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet de l'atelier, de ce lieu à Royère de Vassilière ?
Alors, à la base, c'est vraiment faire un bistrot pour parce que le patelin se mourait un peu, quoi. Alors à la base ça a été un tout petit bistrot et puis après petit à petit c'est vrai que les gens du coin voulaient à manger, donc on s'est mis à faire à manger, ça a nécessité d'agrandir et voilà, et petit à petit à la fin ça donne ça quoi.
Et c'est des gens de Paris qui sont venus ici monter cet endroit?
Alors, c'est des gens d'ici qui ont bougé pour des études ou pour des raisons professionnelles et qui sont revenus après parce que ils étaient d'ici et que arrivent à la trentaine envie de revenir dans le coin quoi. Il y a l'équipe qui s'occupe purement de la restauration, c'est essentiellement les salariés, donc le bar, le restaurant, la boutique, et à côté de ça il y a des associations qui sont à l'étage, dont une qui s'occupe de l'événementiel de l'atelier et qui fait aussi d'autres choses à côté, c'est Emile à une vache. Tous les concerts, les expositions par exemple, ça passe par eux. Content Creuse, qui est une autre association qui fait des événements dans la région. Et Controla, qui est le point multimédia, et puis avec des formations pour les gens d'ici. Et voilà. Les gens qui ont créé ça à la base, ils ont une certaine vision de la politique, qui est plus ancrée à gauche que pas mal d'endroits, et voilà, ça le revendique un petit peu aussi, quoi. Enfin, vous voyez les petites presses, la presse, tout ça, enfin c'est sur ce qui se passe ici, et il y a pas mal de gens qui sont ancrés à gauche quand même ici. C'est pas nouveau, il n'y a pas que ça hein, pour le coup, mais voilà, il y avait un peu l'envie de véhiculer quelque chose, des idées aussi, et pas que une tireuse à bière, aussi dire ce qu'on pense, et voilà.
Ça fait combien de temps que l'atelier existe ?
8 ans.
On sait aussi Gatti, donc peut-être on vous a parlé d'Armand Gatti, enfin, qui a été pendant la guerre à Tarnac. À la Rebérolle, et qui veut aussi, enfin bon, le problème c'est qu'il a 87 ou 88 ans et qui voudrait refaire quelque chose sur le plateau. Bon, c'est jamais des hasards, quoi. Mais je crois que le côté réseau est essentiel pour bien comprendre le plateau, quoi. C'est qu'il n'y a pas d'exclusion de groupe à groupe, quoi. Entre les mecs qui sont des purs marxistes, tendance nouvelle gauche, et d'autres qui sont plutôt développement local, de type coopératif, tout le monde cohabite, mais tout le monde se défend en réseau, quoi. Et ça, c'est un truc étonnant, et on n'a pas eu encore les sociologues, quoi. On a eu les sociologues il y a 30 ans pour essayer de comprendre le phénomène néo-rural, mais le phénomène réseau, enfin du moins, moi, j'ai pas vu encore d'analyse là-dessus, quoi.
Hein?
T'as toujours ta carte au parti?
Ah, toujours.
Oh, merde.
Oui. Oui, ça fait un moment. Je l'ai eu depuis 40 ans. On était dans le maquis quand je l'ai eu. On m'a donné ma carte, on y était que trois. Et il y en a un qui a foiré, d'ailleurs. Il y en avait un autre, je sais pas où il est parti, mais l'autre a foiré. Et tu le connaissais très bien.
Il y a encore beaucoup de communistes sur le plateau?
Ah, moi, il y a bien moi toujours. Je sais pas s'il y en a d'autres. Oui. Mais j'en connais quand même quelqu'un. Parce qu'il y a le gars... C'est plus comme avant. Parce que... Les communistes, dans le temps, on était mieux organisés qu'on est maintenant. Il y avait des cellules. Et j'en étais le trésorier, moi. Alors, vous voyez que je connaissais là un peu l'affaire. Et il y avait les secrétaires de section, il y avait tout le monde, quoi. Et on militait beaucoup à ce moment-là. Et on avait des réunions tous les mois. Et maintenant, c'est fini, tout ça.
Il y a toujours beaucoup de jeunes qui sont très à gauche sur le plateau.
Ah ben, je pense, oui. Maintenant, il y en a bien qui sont à gauche, il y en a bien qui sont à droite aussi. Il y en a peut-être plus de ceux-là, mais enfin bon. Enfin, moi.
Et il y a des anarchistes aussi ici?
Pardi. Et il y en a bien, oui, des anarchistes, oui. Même c'est des bons copains. C'est les meilleurs. Parce que moi, je suis communiste, mais je serais plutôt aussi anarchiste que l'autre. Je vous le dis. Moi, je suis d'accord avec eux, moi. Soit les gars de Tarnac.
Le jour qu'ils les ont arrêtés là-bas à Tarnac, on y mangeait. On est sorti juste à ce moment-là. On arrive là-bas, TF1, FR3, je sais pas, enfin.
Ah, oui, oui.
Mais on a dit, comme c'était le jour du 11 novembre, on a dit.
Il y en a un que je vais repérer, moi, là-bas.
En train de
un faire journaliste. Et je le vois toujours.
Un film, quoi, pour passer la main sur le journal. Nous. Puis on a été photographiés, le lendemain, tout le monde nous voyait sur les journaux. Mais qu'est-ce que vous dites là-bas? J'ai dit, on a bien vu tout ça, mais on n'a même pas vu qu'on était photographiés. Alors, quelques temps après, moi j'avais mon sac à main, il y a Roger Mazot qui me dit « Ah, mais ça c'est le sac des terroristes !»
Est-ce que vous fréquentez un petit peu les néo-ruraux ou les personnes qui sont arrivées récemment sur le plateau?
Non, je fréquentais les anciens, mais malheureusement de plus en plus dans les anciens, ils sont tous au cimetière. Les néo-ruraux, non, pas beaucoup. Mais j'ai rien contre, hein. J'ai rien contre, mais non. Non, il y a des jeunes qui sont sympas, d'abord parce qu'ils ont des idées assez chouettes, donc ils ont envie de faire bousculer un petit peu les choses. Mais j'ai trouvé tellement de choses sur lesquelles les gens se sont ramassés la figure que je me demande si dans bon nombre de cas, ça ne relève pas de l'utopie pure. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien d'avoir l'envie, d'avoir la forme. Les gens s'en allaient, donc on apprenait en ville des notions de syndicalisme. Lorsque vous arrivez à Levallois, vous avez quand même des nanas comme Louise Michel, vous avez quand même des mouvements anars. Et les mouvements anars ont existé ici. Et je peux même vous raconter une histoire en ce qui concerne Perlevatte, c'est qu'à la sortie de Perlevatte sur la route de Chelpeau, vous avez une croix. Alors cette croix est ce qu'on appelle la croix au serpent. Alors imaginez-vous que cette croix était dans une propriété privée, donc un brave homme qui était de facteur, et qui était facteur de Perlevade, et lors de l'élargissement de la voie, on a déplacé la croix. Et comme lui s'en foutait royalement d'avoir une croix ou de pas avoir une croix, putain de chez lui, bon, les gens ont déplacé la croix. Et donc, on était au moment de la grande crise de, passer la grande crise de 29, et les deux gars qui ont déplacé la croix étaient deux anards. Évidemment. Et vous avez à l'intérieur du socle de la croix une bouteille avec un message à la gloire du mouvement anard. Donc, les prochains qui vont déterrer ou redéplacer la croix, ils vont retrouver dans le socle la bouteille avec la gloire. Voilà.
Pas mal. Hein? Je dis, tu veux le garder ou tu me le donnes? Dans mes archives.
Oh, tu veux bien lui donner parce que d'ici qu'on le perde après. Hein.
Si vous avez vu le déferlement qu'il y avait de police, c'est pas croyable.
Mais ça faisait drôle, c'est quand pas même, croyable. Vous avez la main sur le pistolet, là, comme on dit, et puis alors on ne voyait que juste les yeux. Hein. Moi, quand je suis sorti, ça m'avait un peu... Mais lui, il me dit, mais on se croirait autant du maquis. C'est comme ça. Puis nous, on est partis.
Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne savait rien.
Il montait là au-dessus de la mairie, il montait.
Ma nièce qui était à la préfecture, elle était avec nous. Elle a téléphoné à la préfecture.
Ah, ça connaît.
Il y a bien quelque chose à Tarnac. Ah oui, oui. Eh oui, mais qu'est-ce qu'il y a?
Ah ben, mais eux, ils disent rien.
Moi, je les connaissais, les gars de Tarnac, moi. Le Benjamin. Ils faisaient des tournées, là. Je le connaissais. Alors, quand ils ont dit Benjamin s'est fait arrêter et tout, et les autres, hein, Benjamin était en prison. Il nous a écrit de prison. Tu pourrais lui faire voir la lettre, même.
Ah, oui. Je la chercherai, je la ferai voir. Mais je ne sais pas, elle est pour le moment. Là. Mais nous, moi, je n'ai pas voulu lui répondre parce que j'ai dit encore. C'est pas que j'en avais pas envie de lui répondre, mais j'ai dit encore, ça ne ferait peut-être qu'avoir des ennuis.
Et tu ne l'as pas là, la lettre, là?
Et si, je dois la voir. Tu veux la voir? Je sais pas si je vais la trouver. Nous, quand on est arrivés, ils y étaient et puis ils nous ont dit ils sont là depuis 5h du matin.
Les journalistes étaient là aussi, même la veille.
Ah oui, mais on avait fait une pétition aussi. Comme c'était notre épicier. On avait fait une pétition pour le faire sortir, pour qu'il recommence son travail, quoi, d'épicier. Ah oui.
Je ne sais pas la trouver, ah, ben, j'ai entendu qu'elle était là.
Ces gars-là ne nous ont pas fait de mal, hein. C'est des gars honnêtes, bon, non, c'est tout. Quoi.
Elle était camouflée là-bas, hein, tu me diras bien. Hein. Mmh. Elle n'était pas camouflée, mais elle était.
Merci.
Ben oui, je l'avais gardé, puis tu vois, je l'avais.
C'était 1000 vaches, plateau de résistance. Avec Jacques Mazot, Maryse Célérier, François et Joanie Chatou, Jean-François Ribaud, Léon Mazot, Rémi Chollat, Pierre Couteau, Camille Rizard, Florent Biraud. Extrait de la mémoire du siècle Georges Guingouin, 1990, et du numéro de Télé 1000 vaches spécial 25 ans. Prise de son, Benoît Gaspard. Mixage, Claude Nior. Merci à André Rigaud, Elsa Ginou, Brigitte Marvier, Julia Ferchelan et Télé 1000 vaches. Attachée de production, Christine Gedge et Laure-Hélène Planchet. Un documentaire d'Arnaud Contreras, réalisé par Clotilde Pivin pour Sur les Docs.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'heure du documentaire. Demain, nous irons à Firminy-Vert, dans la Loire, à l'ombre de Le Corbusier.